Vous écoutez
RMC. RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
Salut à toutes et à tous, merci d'être avec nous au cœur de la nuit en France, 2h03 du matin, 20h03 ici sur la côte est américaine, à New York. On est en direct sur RMC, on est en direct sur Afterfoot TV, on est en direct sur la chaîne YouTube de l'After. On va passer 3 heures ensemble, exceptionnel, j'en suis sûr, parce qu'on a eu deux matchs importants à décrypter, à analyser. La victoire du Maroc à l'instant face à Haïti, poussive 4-2 pour les Marocains, et la victoire du Brésil 3-0 face à l'Écosse. Le classement du groupe est connu, on le détaille dans un instant, bien sûr. D'abord, j'accueille Walid Acharchon. Salut Walid.
Salut Nico, salut tout le monde.
Merci d'être avec nous Walid, en direct, 14e étage, la tour derrière toi, la skyline de New York.
Magnifique.
Mais tu la regardes jamais en fait.
Bah si, je la regarde.
J'ai l'impression que ça te fait aucune émotion.
Enfin, c'est l'autre
route, ici.
C'est la 86 quoi, c'est la même chose.
Hein. Voilà, c'est ça, j'en étais sûr.
Moi, c'est une route.
Argenteuil, qu'on salue évidemment. Ou la Skyline, c'est pareil pour toi.
C'est la même chose.
Toi, c'est la même chose.
Ouais. Bon. Dégagé comme quand je reviens d'RMC. Voilà la maison.
Bon, Walid, t'es avec moi pendant 3 heures.
Ouais.
On va faire le Maroc. On va faire le Brésil.
Il y a des choses à dire.
On va parler de l'équipe de France, car on a une composition probable à 2 jours du duel face à la Norvège. Et il y a beaucoup de choses à dire. Il y aura pas mal de changements dans cette équipe, d'enseignements à en tirer. Certainement, on sera avec nos reporters équipe de France, bien sûr. Et puis, on a deux matchs qu'on va suivre en direct dans cette nuit de l'after. Le dénouement du groupe A, Tchéquie, Mexique, il faut dire Tchéquie apparemment maintenant, et Afrique du Sud, Corée du Sud. Voilà, tous les... les enjeux, on en parlera tout à l'heure. Ce sera commenté par Valentin Jamin et Jean-Louis Tour qui sont avec nous. Bref, Dream Team, RMC Sport, After, ici en direct de New York. Younes Belhanda arrive dans un instant. Walid, on va commencer bien sûr par ce duel entre le Maroc et Haïti. 4-2. Il y a eu deux partout très longtemps dans cette rencontre. Ça a été une surprise avec le but de Raimi qui intervient à 118e minute de jeu pour être au Marocain de passer devant, et le but de Yacine à la 89e minute de jeu. Younes Belhanda est avec nous en direct. Salut Younes.
Bonsoir à tous.
Salut Younes.
Heureux de t'accueillir. Très heureux de t'avoir pour ce débrief du Maroc, Younes. Tiens, je vais commencer avec toi et puis Walid va s'appuyer sur ta balle également. Il a plein de choses à dire sur la prestation du Maroc, sur quelques individualités également marocaines pas totalement satisfaites. Quel est ton sentiment, toi, après cette victoire 4-2? 7 points tout de même. Le Maroc avance quand même, bien sûr, dans cette Coupe du Monde, qualifiée pour les 16e de finale, deuxième de ce groupe derrière le Brésil.
Ouais, bah soulagé au vu de la première mi-temps où on s'est fait un peu peur. On a été mené par deux fois, mais soulagé. On a fait beaucoup tourner aussi, donc voilà, un peu pour voir les joueurs qui étaient un peu sur le banc. On avait dit qu'il manquait un peu de profondeur de banc, mais ils nous ont fait mentir, parce que Raimi, quand il rentre, il est passeur, buteur, il a été remuant. Jessim, où il est buteur, je voulais le voir plus tôt dans les matchs précédents. Donc voilà, il a marqué ce but et il va engranger de la confiance avec ce but, parce qu'il il était un peu timide au début, mais ça va lui faire du bien. Donc voilà, c'est bien pour avoir un revu d'effectif. C'est soulagé. On finit premier avec le Brésil, égalité. Donc voilà, c'est satisfaisant sur la phase de poule. Donc voilà, on a fait une bonne deuxième mi-temps où il y a eu des joueurs qui ont été très combatifs. J'ai bien aimé Amrabat au milieu de terrain.
Oui.
Ça a changé d'un Boadi où il gère un peu le tempo, mais il est sur une action de but qui lance bien Hakimi, et dans la combativité, il a récupéré et gratté beaucoup de ballons. Donc j'ai bien aimé.
Bon, voilà. Alors, je précise également le classement, avant de donner la parole à Walid, pour être très complet, très précis, rigoureux. Les conséquences, donc Brésil, 7 points, plus 6 différences de but. Le Maroc, deuxième, 7 points également, plus 3 différences de but. L'Écosse, troisième, qui va attendre, ça risque d'être un peu court pour les Écossais. Ils sont à moins 3 en différence de but pour la qualif, pour les semaines de finale. Et puis Haïti, qui termine dernier, avec 3 matchs, 3 défaites, moins 6 en différence de but. Je précise bien, d'abord, débrief, évaluation en longueur Maroc-Haïti, projection sur le programme du Maroc en 16e de finale, et ensuite on fera bien sûr le Brésil, Neymar qui a joué plus de 20 minutes. Vous pouvez nous commenter l'émission sur le chat de la chaîne Afterfoot sur YouTube. Walid, ton sentiment général d'abord, avant qu'on évalue bien sûr les individualités marocaines.
Mon sentiment général, c'est quand même que le Maroc se qualifie pour le prochain tour, même si on n'est pas surpris par rapport à la force de cette sélection. Je vais pas dire que c'est la normalité par rapport à leur statut, mais c'est quand même une donnée. Ils s'en sont sortis dans un match compliqué parce que moi j'ai pas du tout aimé la première mi-temps du Maroc. Alors pour moi le Maroc mérite amplement sa victoire hein, par rapport au volume d'occasion, par rapport à Johnny Placide qui a fait un match extraordinaire. Le Haïti a saisi sa chance jusqu'au bout en mettant ce premier but et même en mettant le but du 2-1. Mais le but du 2-1 de Isidore est monstrueux, il est extraordinaire. Je sais pas si il refrappe 10 fois, s'il la met autant. Donc le Maroc sur la première mi-temps a été surpris par cette équipe haïtienne. Ils ont eu le volume d'occasion nécessaire, mais j'ai trouvé que le Maroc a été très imprécis encore une fois dans les 25 derniers mètres, parce que le Maroc maintenant on monte en gamme hein, dans l'exigence Nico par rapport à la qualité de cette équipe, par rapport aussi aux ambitions qu'a ce pays dans cette Coupe du Monde. Et moi je trouve que ça commence à être un peu récurrent de voir une équipe qui peut dominer et qui n'arrive pas à mettre assez de buts. Alors c'est positif de se procurer autant de situations, mais moi sur la première mi-temps j'ai pas aimé l'état d'esprit de certains joueurs. J'ai trouvé que cette équipe là elle était trop coupée en deux. Amrabat a été meilleur en deuxième mi-temps parce que je trouve qu'il a coupé beaucoup de lignes de passe, mais je trouvais qu'il y avait un football ping-pong qui m'a un peu gêné parce que Haïti a été beaucoup trop dangereux par rapport à ce que ça doit être dans ce type de match avec la supériorité marocaine. Donc moi la première mi-temps m'a dérangé. La première mi-temps m'a vraiment dérangé parce que je trouve que cette équipe là doit être beaucoup plus souveraine défensivement et elle doit se mettre à l'abri beaucoup plus tôt dans ce type de match. Bon, finalement vu la force et le talent et la force du banc, bah ils ont réussi à gagner ce match. Mais attention pour la suite, attention parce que pour moi c'est un avertissement cette première mi-temps, même si on va retrouver certains cadres, mais c'est un avertissement parce qu'il y a sûrement les Pays-Bas qui vont arriver en 16e de finale. Voilà. Et moi je trouve que le Maroc, à chaque fois qu'ils ont eu une supériorité dans le jeu, ils n'ont pas réussi à maximiser leurs occasions, et ce soir encore une fois.
Bon, en tout cas on a vu les images, je tiens à le dire quand même, après le match, hein, la joie collective, oui. Hakimi qui a été célébré énormément pour mille raisons j'imagine, par tous ses coéquipiers parce qu'il a marqué également son premier but dans cette Coupe du Monde.
C'est ou Hakimi ?
Deux tonalités différentes.
Ils l'ont accordé à
Hakimi ? Moi je l'ai encore sur Hakimi, il faudra vérifier, mais ouais. Si Aurélien Tersin disait non, a priori c'est Hakimi. Hein.
D'accord.
39e minute, Hakimi. J'ai deux ambiances différentes, hein. J'ai Walid dans sa salle qui lui est hyper exigeant. Et toi, Younes, qui considère que c'est déjà super d'avancer comme ça dans la compétition malgré ce petit succès entre guillemets face à Haïti.
Ah non, mais l'analyse de Walid, elle est totalement exacte, parce que si on se contente de ça, pour les prochains tours, si tu tombes contre l'Hollande, ça suffira pas, parce que jouer qu'une mi-temps, on l'a vu sur ce début de tournoi. Si tu prends le Maroc contre le Brésil, tu te dis peut-être t'as joué qu'une mi-temps. L'Écosse, pareil. Et ce soir, c'est la même chose. Donc après, il y a eu une revue d'effectifs, surtout au milieu de terrain. On a changé carrément notre milieu de terrain, où avec un Boadi qui gère ce tempo, comme tu l'as dit Walid, où c'était un peu scindé en deux en première mi-temps. Boadi, tu vois, il gère le tempo du match, où il laisse remonter ses
même
défenseurs.
Même Unai qui était pas là.
Et Unai qui était pas là, qui a été critiqué aussi sur le début, où il joue un peu plus haut, mais il permet à ce bloc de rester compact et de d'avoir des lignes plus serrées. Donc là, avec un Amrabat qui descend un peu plus, donc le temps qui remonte, ben ça scinde un peu l'attaque et le milieu défensif. Donc c'est ce qui nous a donné en première mi-temps des contre-attaques de Haïti.
J'ai vu un 5-5 en fait, Younes, sur la première mi-temps, ouais, qui m'a dérangé, ouais. avec Amrabat devant le back four.
Ah oui.
Et puis même sur les buts, enfin le deuxième, il est extraordinaire. Isidore, ah oui. il met une frappe incroyable. Mais le premier but, je trouve qu'il y a une déconnexion, que ce soit Salahedine, Bono, même la charnière centrale, qui pour moi me dérange. Alors peut-être que c'est le troisième match qui fait que, et on aura une concentration tout autre contre les Pays-Bas, je l'espère pour le Maroc, mais j'ai trouvé ça étonnant moi sur la première mi-temps, et dans les deux surfaces de réparation, ouais, j'ai trouvé des lignes beaucoup trop distantes, alors que ce qu'ont proposé les Marocains sur le premier match contre le Brésil sur la première mi-temps, et même sur le début de match contre l'Écosse, moi je les ai trouvés très très bons. Ça dénotait un petit peu avec les deux premiers matchs. Donc après bien évidemment le principal est fait, tu gagnes.
Bien sûr.
T'as fait 7 points. Là, peut-être que moi, je suis exigeant, mais moi, je me projette.
On dit ça il y a 4 ans et demi. Maroc qualifié, 7 points, 2 victoires, 1 nul.
C'est magnifique.
Dont 1 contre le Brésil, tu dis. Mais c'est merveilleux.
Mais on a dépassé ça. Aujourd'hui, on a vu la valeur, du Maroc.
Avec l'ambition qu'a le Maroc, c'est ça, ouais, Walid.
Ouais,
le Maroc.
Vas-y, Younes.
Vas-y, Walid. Non, mais il a raison, Walid. Avec l'ambition qu'a le Maroc, Je sais pas si ça suffira pour le prochain tour, surtout que t'as des gros poissons qui arrivent prochainement. Donc voilà. Mais la revue d'effectifs Salahidine qui
est voilà, placé
sur le côté gauche.
Bien sûr.
Tu vois sur le premier but Walid ou Salahidine, il sait pas s'il reste dans l'axe ou s'il décale parce qu'Amrabat ils sont deux sur lui. Mais une fois que Mazraoui est rentré, tu vois que c'est il y a de la sérénité et ce sera un tout autre match pour les 16.
Bah, c'est vrai mais voilà les gars, l'absence
de l'équipe au complet.
Les absents ont raison.
Ah, Ayoub Bouadi en tête. Allons-y.
Mais Bouadi, y a pas photo. Même si moi je trouve.
Non, mais tout à l'heure on parlait de problèmes de transition, d'organisation dans l'entrejeu.
Essentiel. Salahidine que j'avais trouvé très bon à la CAN pendant l'intérim, quand Hakimi était blessé. Là, il fait une première mi-temps qui est pas bonne du tout. Tu prends Issa Diop aussi. Son absence, elle fait quand même. Tu l'as dit. Les absents ont raison. Ça va quand même faire. Ça va quand même faire beaucoup de bien son retour. Donc oui, là, parce que quand tu vois la différence entre Mazraoui et Salahidine, parce que Mazraoui, il fait un début de compétition, il est monstrueux dans toutes les relances, dans l'impact, dans le leadership, et même sur sa rentrée, on a vu la différence. Ce sera une équipe qui sera bien, bien meilleure avec le retour des titulaires. Ça, c'est une certitude.
Bon, voilà. Tu l'as d'ailleurs mentionné. Ça devrait être les Pays-Bas en 16e de finale pour le Maroc.
Les Pays-Bas jouent la Tunisie.
Je pars du principe que les Pays-Bas vont battre la Tunisie.
Voilà.
Même un nul peut suffire. Donc voilà.
Et puis surtout, ils sont au-dessus. Voilà.
Et puis le Brésil, ce sera Japon ou Suède.
Oui.
Pour l'instant, c'est plutôt Japon.
Oui.
Les deux vont s'affronter.
Oui.
Ce sera demain, troisième journée de ce groupe, bien sûr. Écoutons Achraf Hakimi, qui a été fêté par tout son collectif. On va l'écouter dans un instant, le capitaine du Maroc. Comment vous l'avez trouvé ce soir, les gars, Hakimi?
Pas extra, moi.
Pas extra? Toujours pas extra?
C'est pas moi, Achraf Hakimi. Moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de mauvais choix. Je trouve qu'il y a des conduites de balles un peu trop lointaines où il pousse souvent alors qu'il peut décaler. Moi, il y a deux individus qui m'ont gêné et c'est deux leaders. On parle d'Hakimi, mais on parlera après de Brahim Diaz, qui me déçoit sur cette.
Garde-le pour ensuite.
On en parlera après. Mais Hakimi, pour moi, alors oui, il y a du mouvement, il y a de l'intensité. Mais je trouve que techniquement, il y a une volonté de la part d'Hakimi, je trouve, de finir les actions, d'être le dernier joueur à frapper, alors que je pense qu'il peut mettre sa qualité athlétique au service des autres. Et ça m'a dérangé sur certaines situations dans le match.
Younes.
Ah ouais, moi je l'ai trouvé plutôt bon parce que il a été très remuant sur son côté, il a fait beaucoup d'appels à haute intensité. Donc c'est vrai que c'est pas encore 100%.
Mais ça on sait qu'il fait ça, on sait qu'il sait faire. Mais moi c'est sur ça débouche sur quoi à la fin parfois
il est décisif là ce soir quand même, oui. Walid, il est sur une passe D, il a un but, il a fait beaucoup d'appels en profondeur où il a fait des efforts contre efforts. Et il manque aussi, où je pense au Maroc, quand tu arrives à un Achraf Hakimi, il met des centres et il te manque un attaquant de surface comme El Nesyri. Moi j'aurais aimé voir El Nesyri parce qu'on a eu beaucoup de situations sur les côtés où ça peut déboucher sur un centre. Donc ce choix qu'il fait Achraf Hakimi à chaque fois de rentrer à l'intérieur, c'est parce que des fois t'as pas cet attaquant de surface où tu peux la mettre en première intention. Et c'est ce qui manque, je pense aussi, où on concrétise pas nos actions, d'avoir cet attaquant de surface qui te prend ses espaces, qui te coupe le premier poteau. Et ça manque aussi pour Achraf Hakimi.
Non mais t'as raison, c'est lui qui fait la passe D pour Saïbari. C'est lui qui marque. Enfin, il se projette dans la surface de réparation. Peut-être encore une fois, je suis très exigeant avec lui, mais je trouve que par rapport au volume qu'il a, parce qu'il a un volume qui est toujours très important et positif pour l'équipe. Moi, il y a beaucoup de situations, des comptes, des transitions qu'on a eues du côté du Maroc quand le match a avancé. Où souvent devant la télé, je me dis il peut faire le bon choix. Mais il est tellement fort physiquement, athlétiquement, et il est tellement au-dessus, t'as l'impression même parfois qu'il joue face à des enfants sur le plan athlétique. Mais des fois, tu dis attention, parce que comme contre le Brésil sur sa première mi-temps, quand le niveau va augmenter, il va falloir faire les bons choix pour le Maroc.
À l'image de sa saison, qui est positive, mais qui est pas celle de la saison dernière, évidemment.
Et après, il y a eu des blessures, il y a eu des pépins, ça reste toujours très important.
Et puis il y a eu une canne au milieu, surtout sur la saison de l'année dernière où il
a mis la barre tellement haut.
C'est tellement énorme
le niveau.
Quand tu vois un Achraf Hakimi comme ça à ce niveau-là, tu le veux tout le temps, mais des fois ça dépend pas aussi que de lui. Il a des joueurs autour de lui où il s'adapte, où on sait qu'au PSG ça permute beaucoup, il y a beaucoup de mobilité. Donc voilà, il faut qu'il trouve ça. Il y a des joueurs qui vont revenir dans le prochain tour avec un Unai, Alcanous, où il y a une finesse aussi technique, où il se trouve mieux. Donc moi c'est positif sur les deux matchs précédents, je l'ai trouvé encore meilleur ce soir. Donc c'est que positif.
Écoutez, Achraf Hakimi en anglais après le match, il a marqué ce soir son premier but en Coupe du Monde.
Yes, like you say, it was a crazy game, too many goals.
C'est un match fou.
Really happy, really
beaucoup de buts. On est très heureux pour la qualification pour les 16e de finale.
And we have to keep going.
Il faut continuer maintenant.
And you went down twice, but you kept coming back. Talk to me about the team's mentality to fight back.
Ils sont venus deux fois au score face à Haïti. Racontez-nous
l'esprit. Yeah, like you say, it was not easy to start the game.
C'était pas simple de commencer le match.
We played one team like it was already out of the competition, but we started not in the best way. But the team
have a spirit. Déjà de la compétition, c'est pas facile.
And this spirit of the competition that we come back.
C'est l'esprit de notre compétition. On est capable de souffrir, de revenir.
And finally, we still don't know who you'll play in the next round, but how are you feeling going forward?
Que pensez-vous de la suite maintenant pour vous?
We're gonna be focused
on ne sait pas. On est qualifié, on va voir.
See the games to see what I guess we're gonna play.
On va regarder pour savoir qui on va jouer.
Like you said, going to the result, and we have to focus.
Il faut rester focus sur chaque match maintenant. Voilà, ce sera les Pays-Bas, certainement. Il y a à peu près 9 chances et demie sur 10 que ce soit les Pays-Bas.
Ce sera un très gros choc, un match très excitant.
Et attention, aussi, parallèle culturel, vrai lien entre les deux pays, énorme diaspora,
Younes.
T'en as croisé en sélection marocaine aux Pays-Bas.
Mazraoui,
d'une nationalité. Exactement.
Saïbari
qui joue encore au PSV.
Mbark Boussoufa, Karim El Amadji.
Moi j'avais un Boukari aussi. Boukari qui était
joué à Nantes. C'est vrai.
Exactement. Hakim Ziyech,
bien sûr.
Ziyech, bien sûr.
C'est hyper intéressant d'être sur place aussi aux Pays-Bas pour suivre ce match.
Ah oui. 16e
de finale de Coupe du Monde. On pourra en parler après.
Alors, en 2022, il y avait eu le Maroc-Belgique en poule.
Oui, c'est ça.
Et aussi.
Diaspora européenne. France, Belgique, Maroc.
C'est aussi un match très important par rapport à cette symbolique-là, et là on va la voir en 16e de finale.
Parlons du flanc droit. Profitons-en, puisqu'on part de Achraf Hakimi, censé être le flanc, le côté le plus performant du Maroc, qu'on l'a vu performant pendant la CAN, hein, d'ailleurs, en hiver dernier. Et remontons un peu vers Brahim Diaz. Brahim Diaz qui doit être, alors c'est l'expression consacrée, hein, Younes, hein, facteur X. Ouais. Il l'a été quand même pendant la CAN, malgré la fin.
Ouais.
Il a marqué et fini meilleur buteur de la CAN, élu meilleur joueur de la CAN quand même. Comment tu le trouves, toi, honnêtement, depuis le début de ce mondial, et sur ce qu'il peut et sur ce qu'il doit apporter à la sélection?
Ah, moi honnêtement, j'aime pas du tout son début de tournoi où je trouve qu'il essaye de faire la différence beaucoup individuellement, où il s'appuie pas sur le collectif, où à des moments il peut donner plus rapidement et faire peut-être la deuxième passe ou la dernière passe, et où il prend ce temps de ralentir, essayer de dribbler, et c'est ça qui me gêne un peu, parce qu'il est un peu dans le faux, parce que on l'a vu sur le dernier match où il a une situation qui peut mettre en une touche sur Saïbari, il la met pas, je crois qu'il se fait gronder un peu par le coach. Donc je me demande, est-ce que il cherche à être le sauveur ou essayer de briller? Mais sur ce qu'on voit en ce début de tournoi, ben il n'y arrive pas. Et là ce soir où il le change un peu tardivement, il fait changer aussi les trois en même temps, où Saïbari sort en même temps que lui. Mais moi je l'aurais sorti avant et j'aurais mis un comme Jessim ou un Talbi à sa place, parce que il n'y arrive pas en ce début de tournoi. Hein.
On va écouter Mohamed Wahbi tout de suite et après ton avis également Walid sur le match et pour l'instant le début de mondial de Brahim Diaz. Mohamed Wahbi.
On est content d'être qualifié, bien entendu. On est deuxième, on aurait voulu être premier. Maintenant je pense pas qu'on ait assez bien fait les choses en première mi-temps pour être premier. Donc le fait d'arriver à 2-2 à la mi-temps, on savait très bien que ce qu'il fallait, c'était essayer de gagner le match sans pour autant aller chercher la première place et la différence de but. Donc on a vu que c'était une équipe, et on le savait que c'était une équipe qui allait jouer son batou, qui allait tout tenter. Dommage, on leur a donné l'opportunité de faire un gros match parce que on n'a pas été assez performant dans les deuxièmes ballons. Par contre, on a eu beaucoup d'occasions. On a eu beaucoup d'occasions. On aurait pu marquer avant, on aurait pu être de tuer le match avant, mais voilà, ils ont eu deux occasions, deux buts, et la troisième frappe, c'était la frappe à la dernière minute que Bounou sort. Donc c'est vrai que là, au niveau efficacité, ça nous a manqué aujourd'hui pour pouvoir marquer les buts qu'on voulait marquer. Après, on en a mis trois, c'est bien, mais on en a pris deux, c'est moins bien.
All right, thank you, coach. Thank you.
À l'instant, Mohamed Wahbi, sélectionneur du Maroc.
4.
Il a dit 3.
Ouais,
je crois qu'il
avait dit on en a mis 3.
Il a compté celui de Jessim.
Voilà, après, oui. Ou alors il a dit après on en a mis 3, je pense.
Peut-être qu'il a été interviewé à la 75e, peut-être.
C'est possible. C'est avant, ça existait ça. Hein.
Oui, oui.
À l'époque de Younes en Ligue 1, ouais. On interrogeait des joueurs sur le banc pendant
exactement.
Le match. Bon, les gars.
Brahim Diaz.
Wally.
Non, mais Brahim Diaz, moi je suis très très déçu. Très très déçu. Moi je suis d'accord avec Younes. Il a le syndrome de l'homme providentiel. Il doit faire briller les autres et pas uniquement briller. Et avec la qualité qu'il a et avec le rôle qu'il doit avoir dans cette équipe, on est déficitaire. On n'est pas dans le bénéfice avec Brahim Diaz. Je trouve qu'il force la frappe, qu'il force le choix, que depuis le début de la compétition, il veut son but. Mais le plus important, c'est pas de marquer, c'est de faire marquer et que le Maroc en ressorte grandi dans l'animation offensive. Et ça pose question. Moi, ça pose question parce que c'était un match, le fameux match bonus face à une équipe plus faible sur le papier qui pouvait lui permettre de lancer sa compétition. Et moi, je trouve que il a pas dissipé les doutes après le match contre le Maroc, contre le Brésil et contre l'Écosse, qui déjà avait été moyen du côté de Brahim Diaz. Et là, ça devient problématique parce que moi, je trouve que c'est plus l'équipe d'El Khanous et de Saïbari que celle de Brahim Diaz depuis le début de la compétition, où je trouve les deux bien, bien meilleurs par rapport aux joueurs du Real Madrid. Et moi, je me suis un peu tiré le peu de cheveux qui me restait devant le match avec les choix de Brahim Diaz, avec même parfois le rapport au ballon, le manque d'efficacité. Et si on doit monter en gamme sur les prochains matchs, il va falloir un Brahim Diaz efficace. Quand je dis efficace, c'est pas que devant le but, c'est dans les choix de jeu, choisir le bon choix. Et pour l'instant, c'est pas le cas.
Younes, je pose la question franchement, est-ce qu'on n'attend pas trop de Brahim Diaz finalement? Est-ce qu'on l'a pas surévalué depuis des années justement? Son histoire avec le Real, c'est-à-dire que la concurrence est énorme bien sûr au Real, nous montre qu'il n'a pas réussi à s'imposer quand même. Qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que tu penses qu'il a encore une marge de progression? Est-ce qu'il peut prendre cette équipe à bras-le-corps en tout cas? Hors fulgurance comme il a réussi à faire pendant la CAN quoi.
À la CAN, c'est lui qui est décisif sur presque tous les buts du Maroc, hein, où on a vu un Maroc qui jouait moins bien que ce qu'il joue en ce début de tournoi par période. Mais sur ce qu'il a montré à la CAN, l'efficacité qu'il a eu à la CAN, ben sur ce début de tournoi, il la montre pas du tout. Walid, il a raison, il essaye de faire tout seul, essaye de forcer la chose, ou par moment par une passe vous l'avez vu la passe à un moment donné sur El Khanous décalé sur le côté
oui,
gauche.
Oui, oui.
Et ben c'est ça qu'on attend de lui. On n'attend pas toujours à la dernière passe, mais de faire accélérer le jeu. Et à un moment donné, pareil, il fait un mauvais choix sur le côté gauche où il y a un Hakimi qui vient qui le déborde. Il doit le sentir, il a le haut niveau, il sait l'exigence du haut niveau. Il joue au Real Madrid où il a une concurrence diabolique, mais par moment quand il rentre au Real Madrid, il fait mieux que ce qu'il a fait en ce début de tournoi où il est plus efficace.
Et surtout Younes, même dans l'attitude, moi sur le but de l'Haïti notamment, je trouve qu'il est déconnecté dans son rôle sans le ballon, alors que là on a expliqué qu'il y avait une équipe qui était coupée en deux, il doit aider l'équipe et je trouve qu'il est ailleurs et ça c'est pas normal. Moi j'espère quand même que Wahbi à la mi-temps, parce que tout à l'heure quand je parlais d'un état d'esprit défaillant chez certains joueurs, je parle en premier de Brahim Diaz qui doit être le leader même à la perte. Alors en deuxième mi-temps c'était un peu mieux. Il y a un ballon qui récupère très très bas où il va.
Sur face et qu'il la remonte. Ouais.
Il remonte pour installer une transition offensive. Mais il fallait attendre la 70e minute pour le voir se réveiller de cette manière. Et ça face à plus gros ça ne passera pas. Et moi je le répète, mais Brahim Diaz avec l'histoire qu'il a avec le Maroc où il a été très très bon à la CAN, mais on va pas refaire Panenka. Je veux briller devant tout le peuple marocain et tout ce qu'on en a dit. Après cette finale de CAN et même ce qui s'est passé dans le groupe, parce qu'il faut rappeler il y avait véritablement eu des tensions, il y a eu des joueurs qui n'ont pas compris.
En tout cas il y a des silences accusateurs.
Il va être attendu.
Akromash aussi qui s'était embrouillé à un match contre lui en Espagne.
Exactement.
Vous voyez que c'était tendu, donc
avec Akromash voilà, du Rayo Vallecano et donc là il va aussi être attendu au tournant sur les gros matchs, sur la grosse rencontre et là ok, bon premier tour ça ne prête pas à confusion parce que il y a le Maroc qui fait 7 points, mais sur les prochains matchs, il va être épié et ça sera sûrement le bouc émissaire, Nico.
Oui,
on va pas critiquer El Khanous ou Saïbari qui, sur les 3 premiers matchs.
Pour l'instant, il est assez préservé par les critiques. Hein,
parce que ça,
Brahim Diaz,
parce que t'avances. Mais là, Bouadi a fait son tournoi, Saïbari a fait son tournoi, El Khanous fait son tournoi. Voilà, qui
Saïbari, évidemment.
Qui va être. être Naoui, mis qui va être
mis en... aussi Walid Rahimi qui est rentré où il a fait passe D et but
qui va être mis en avant.
Oui, il fait un énorme tournoi pour l'instant aussi.
Voilà, qui va être mis en avant en tête de gondole si ça se passe mal, et ben ça va être encore Brahim Diaz. Oui. Et moi je suis désolé mais il est pas défendable sur ce début de tournoi. Donc il va falloir véritablement qu'il inverse ça sur le match contre les Pays-Bas parce que il doit être ce joueur, c'est son rôle.
Bon, voilà pour Brahim Diaz. On a consacré 7 minutes, c'est normal. C'est leader technique de cette sélection, logiquement. Même si moi, je trouve qu'il aura jamais de volume sur un match entier. C'est pas ce qu'on attend.
C'est autre chose.
C'est un profil assez différent.
Oui. Enfin, il y a un statut.
Voilà, sur une passe D que personne n'a vu, sur un
but. Non, mais moi, je suis en train de te dire qu'il doit faire un doublé, ou un but, une passe D. Mais qu'il respecte le jeu. Il ne respecte pas assez le jeu et ses coéquipiers sur la première mi-temps contre Haïti. Et je pense que l'encadrement ou le staff va, ou même les leaders autour vont lui dire. C'est pas possible, sinon.
Younes, le match d'El Kaabi, qui faisait son premier match en tant que titulaire, t'en as pensé quoi?
Ça a été compliqué où tu vois tu as un Saïbari qui a joué dans l'axe, il a joué côté droit où c'est pas sa spécialité de jouer côté droit, c'est plus un attaquant qui joue en surface, mais avec des joueurs autour de lui où tu as une forte capacité comme Brahim Diaz où c'est un peu des égos hein, bien sûr ils essaient de faire la différence et ben on l'a moins vu donc voilà c'est moi, j'aurais aimé un attaquant comme El Nesseri, où je pense que
il n'est pas dans le groupe. Hein, je rappelle pour ce groupe.
Il n'est pas dans le groupe, ouais. Où il aurait pesé beaucoup par les centres où on a une capacité sur les côtés où on arrive à se créer beaucoup d'occasions sur les côtés et où on manque ce truc de.
Ah mais Younes,
de centrer.
Younes, El Nesseri, c'est fini en sélection. Ouais, on a compliqué. Vu.
Mais quand même.
À la limite, parle-moi d'Igaman éventuellement, tu vois.
Oui, enfin, il a 7 mois.
Oui, mais dans l'absolu, à terme.
Mais t'as besoin des fois d'une présence où tu as des centres où tu en manques d'efficacité. Là, ce soir encore, on met 4 buts. Mais avant, dans les deux premiers matchs, on aurait pu avoir des meilleures situations où tu vois, t'as une série qui monopolise un peu deux défenseurs avec son gabarit, sa grandeur où tu sais qu'il saute très haut. Tu vois, peut te faire un peu plus d'espace en retrait où le ballon, t'as vu, de Achraf Hakimi quand il a mis en retrait, magnifique, tu vois. Ben lui, il peut occuper ces espaces-là. Donc El Kaabi, après je peux pas le juger parce qu'il a joué un peu dans un poste où c'est pas son poste de prédilection. Mais c'était.
Et puis j'ai l'impression qu'il y a quand même un travail avec Wahbi sans numéro 9. Et là, il y a eu une autre animation avec un 4-2-3-1, avec Saïbari en 10.
Le débat est tué, de toute façon.
Exactement. Et je pense qu'aussi, El Kaabi a compris que, la compétition allait se faire sans lui au poste de titulaire.
Ah, oui.
Mais on l'a pas vu du tout, moi. J'ai très peu vu face à la défense haïtienne. Et le grand gagnant, c'est Raimi. Qui rentre et qui met ce but là et qui lui aussi est un peu baladé avec Wahbi sur un côté au poste de numéro 9 qui a perdu sa place vu que il y a un choix avec un milieu de terrain offensif qui est utilisé à leur place, mais Raimi il a fait une entrée où il donne la victoire au Maroc et il évite une tâche dans cette phase de poule. Donc ça moi je pense qu'en sortie de banc là Raimi a gagné beaucoup de points par rapport à El Kaabi où El Kaabi on sent que la CAN c'est la CAN, la Coupe du Monde c'est la Coupe du Monde et que le rythme peut-être est différent, les sensations sont différentes.
La pression, il a
une compétition qui est un peu moins à sa portée. Hein. Ouais. En tout cas c'est l'impression moi que j'ai eu sur le match.
Alors Younes, pendant la CAN, on t'a eu plusieurs fois après les matchs du Maroc notamment, tu tenais des propos, tu étais hyper exigeant avec Walid Regragui. Oui. Sur le jeu, ce qui est proposé, tu voulais plus volontariste par rapport au Mondial 2022, surtout dans sa compétition à domicile. Il est temps de juger déjà, après 3 matchs, le boulot de Wahbi. Tu étais assez confiant sur ce qu'il avait développé. Qu'est-ce que tu en penses pour l'instant après ces 3 matchs?
En fait, ce Wally, c'est pas une critique.
Pas une critique, mais tu disais que les moyens que tu as, tu dois asseoir ta domination.
Avec ce que tu as. Au milieu de terrain avec les latéraux que tu as et les attaquants surtout les joueurs de côté, eh ben on avait un El Zalzouli, un Diaz qui était en feu à la CAN où c'est lui qui a débloqué pas mal de situations. Eh ben je voulais un peu plus de jeu. Par moment ils l'ont fait sur le match, je crois que c'était du Cameroun où ça a joué un peu plus.
Exactement.
Où le Cameroun aussi a joué donc n'est pas resté en bloc bas. mais je les voyais plus jouer. Et là, avec Wabi, eh ben il est entreprenant, il sait ce qu'il a, il sait les joueurs, il sait les joueurs à disposition qu'il a, surtout au milieu de terrain où tu as un milieu de terrain qui est niveau vraiment international plus, tu vois, c'est El Ainaoui qui a un gros volume de jeu, Unahi qui joue un peu plus haut où tu sais qu'il sait garder le ballon, il fait les efforts devant, derrière, il sait la garder, il sait distribuer, et un Bouadi qui a été une révélation sur cette Coupe du Monde, pas en Ligue 1, qui sait gérer le tempo du jeu. Donc avec ce type de joueur là, eh ben il a carrément réussi ce qu'il a voulu faire. Il a proposé du jeu. Il est entreprenant. C'est vrai que ça a été par moment, parce que au niveau du Brésil, ça a été sur la première mi-temps 30 minutes. L'Écosse a été pareil sur une mi-temps. Ce soir où il a changé un peu son revue d'effectif, on a essayé quand même aussi de jouer. Franchement, moi je suis pas agréablement surpris, parce que je savais qu'il allait jouer comme ça au vu de ce qu'il a fait avec les U20 à la Coupe du Monde. Donc pour moi c'est réussi son début de tournoi.
Younes, sur le contenu, moi je suis fan de ce qu'il propose, même sur sa patte tactique, c'est très intéressant. Maintenant moi tu m'empêcheras pas de penser que je suis quand même frustré à la place des Marocains sur cette phase de poule, parce que t'avais la possibilité de terminer premier avec un tableau qui pour moi est plus abordable. Tu pouvais prendre Japon ou Suède en 16e de finale, et je crois qu'en 8e faudra voir, c'est la Norvège ou je sais plus.
Bref, Japon, il faut pas se réjouir.
Faut pas se réjouir. Parce que toutes les équipes sont à respecter, mais je dis juste que, en fait, avec ce que tu as produit sur les deux premiers matchs, pour moi, je trouve que c'est rageant d'être à 7 points, à égalité avec le Brésil, et de ne pas terminer avec cette première place. Moi, je suis frustré parce que la première demi-heure, t'as montré que t'étais bien supérieur au Brésil et que t'as pas réussi à concrétiser. On a déjà fait le débrief, tu te rappelles, mais pour moi, tu dois gagner le match ou tu dois refermer le cercueil d'une équipe du Brésil qui était pas prête. Elle est, tu vois, on la voit monter en puissance là contre l'Écosse. Elle était pas prête sur le premier match, et t'avais une possibilité de battre le Brésil. Contre l'Écosse, t'avais la possibilité aussi de marquer en première mi-temps et de mettre plus de buts, et finalement en deuxième mi-temps t'as plus souffert ou t'as plus géré qu'autre chose. Et ce match contre Haïti où tu dois mettre une valise à Haïti, c'est-à-dire que avec la force que tu as, avec l'équipe que tu as, avec le contenu que tu peux proposer. Donc moi je ressors, en fait, alors peut-être que je suis trop exigeant, mais en me disant, purée, le Maroc a loupé une opportunité de peut-être avoir un tableau plus abordable. Et c'est ce qui m'inquiète un petit peu sur la suite de la compétition, c'est d'avoir une équipe beaucoup plus joueuse qu'en 2022. Moi, j'allume ma télé pour voir le Maroc, mais un peu plus naïve dans les deux surfaces de réparation. Et c'est ce que je ressors aussi de cette phase de poule. Purée, le Brésil était prenable, quoi. Et puis on l'a dit.
Mettre de plus face à l'Écosse, par exemple. Ce soir également.
Il l'avait dans les crampons, le Maroc.
T'as raison.
Bon, pour moi, c'est ce que j'ai vu. Et au final, le Brésil décevant, le Brésil qui est dans un creux générationnel, est devant, sans avoir montré beaucoup plus que le Maroc. Moi, c'est comme ça que je vois le truc.
Bon, voilà. Mais c'est ça qui est intéressant. Et finalement, c'est hyper positif. Encore une fois, on en parle depuis janvier dernier et la CAN.
Ah oui.
Maintenant, on juge le Maroc comme une grosse sélection mondiale.
Et je pense que les supporters marocains aussi voient le Maroc comme ça maintenant.
Oui, tout à fait.
Ah oui, mais après avec la Coupe du Monde où tu fais demi-finale et que à la CAN tu fais une super CAN où tu vas au bout, c'est vrai que tu penses encore avancer, mais sur la première partie, ouais. 37 points, savoir qu'il y a le Brésil aussi, on sait très bien qu'il y a, comme t'as dit, il y a un creux générationnel. Mais ça reste le Brésil. Les équipes en face craignent aussi le Brésil. C'est pas comme si tu jouais contre n'importe qui.
C'est le verre à moitié plein. C'est le verre à moitié plein ou à moitié vide.
C'est ça. Après, tu fais 7 points. Tu te dis, t'aurais pu marquer plus. Là, ce soir, tu reviens. Tu reviens après 1-0, 1-1. Tu reconcèdes un deuxième but. T'as cette arme de revenir au score. Et en deuxième mi-temps, c'est plus le même match qu'en première mi-temps où tu as je dirais plus dominé sans avoir beaucoup d'occasions, mais où tu as repris le jeu à ton compte, où t'as concédé moins d'occasions ou de contre. C'est vrai qu'il y a un petit bémol sur cette première mi-temps. Tu prends les deux buts où tu peux te dire, j'aurais pu finir premier de ce groupe avec un Brésil qui n'était pas flamboyant en ce début.
De toute façon, l'explication sera contre les Pays-Bas et
on va en parler dans un instant.
Bien sûr.
Vous êtes nombreux hein, sur le chat, supporters d'Haïti, à dire on est fiers quand même de ce qu'a fait la sélection ce soir.
Mener
deux fois face au Maroc, avec un but exceptionnel, on en a parlé, quoi.
De Isidore,
qui va rester, oui, c'est Isidore comme un des plus buts de sa carrière, je pense.
Oui.
En tout cas, le plus exposé.
En tout cas, celui qu'on a le plus vu.
Certainement.
Ouais. Je sais pas sur le premier but, si vous, c'est quel avis sur, vous avez sur le premier but. J'ai l'impression que Bounou est un peu en retard.
Ouais, bien ouais, sûr, Younes. Il est en retard, hein, il est retard, ouais, il est clairement en retard.
Même si pour moi, c'est ça, Salah, il se fait manger.
Ouais. Ah oui, il se fait manger. Ah oui, ça c'est sûr. Mais après, il est beaucoup excentré quand même le joueur qui centre.
Bah Bono, j'ai l'impression
que
Bono,
il doit la couper.
Ouais. Il doit la couper. Ouais.
Alors dans un instant, on va se projeter. Younes et Walid sur le 16e de finale. Je disais, il y a pas trop de suspense. Ce sera très certainement les Pays-Bas. Comment vous envisagez cette confrontation? On aura le temps d'en parler d'ici là, bien sûr. Il va se passer quelques jours, mais quand même dès ce soir, vous êtes nombreux à vouloir en parler aussi. Vous restez avec nous. Et puis le Brésil dans la foulée, premier de ce groupe finalement. Qui affrontera le Japon ou la Suède en 8e de finale. Neymar a joué 20 minutes. Ovation à Miami. On va en parler. On va écouter les réactions des Auriverdes ce soir. Vous restez avec nous. La soirée fait que commencer la nuit. Hein. Il est 20h38 ici, 2h38 en France. On est là jusqu'à 5h du matin. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
En direct de New York, ici il est 20h40, 2h40 du matin avec Walid Acherchour et Younes Belhanda. Younes, il est quelle heure chez toi là?
Il est 1h40.
Ça va, c'est pas trop dur? Non, t'as un couche tout en général ou pas? Ou tu peux veiller parfois un peu?
Ouais, je veille quand même.
Tu veilles un peu?
Ouais, je veille quand même un peu.
En tout cas, je te le dis, on se régale avec toi Younes. Je te le dis, on a que des bons retours énormes. Younes Belhanda, qui finit sa carrière, qui rejoigne vraiment.
De toute façon, s'il veillait pas la nuit, Younes, c'était Ballon d'Or.
Hein. Génial. <C'est ça. rire> Non mais vas-y, arrête ta carrière assez vite Younes, hein. After Génération After, ouais, on t'attend ouais, là hein.
Viens à Paris, on va te louer une chambre.
Un petit studio, théâtre à Paris.
On va te louer une chambre à Paris.
Dans le 15ème à Ballard, c'est sympa, après ouais, du périph'.
Il me faut 5 chambres les gars.
Hein?
Il me faut 5 chambres, hein, c'est familial.
5 chambres?
Bah c'est pas grave.
Non, bah,
pas,
t'inquiète, on va s'arranger, on est nombreux quoi.
On va gérer ça.
T'inquiète pas, on va gérer ça Younes.
Il va rentrer dans le top 3 des consultants en France Younes, je vous le dis moi.
Très fort, très fort. C'est quoi, je vais le dire, voilà, il y a le fond et la forme.
Ouais.
Il y a l'énergie, il y a le sourire.
Merci Walid.
Et la bonhomie.
Et, non, c'était Nico là, s'il te plaît.
Merci Walid, que je te vois des fleurs. Excuse-moi, merci Nico.
Vous êtes 3200 en direct sur YouTube?
4000 personnes.
C'est sûr, il faut que ça arrive fraîche alors.
Ouais, 4000 personnes.
4000 en direct sur YouTube.
Il est 1h30.
Non, il est 2h40 du matin en France.
2h40 du matin.
2h40 du matin.
C'est énorme, c'est énorme.
Merci à vous d'être si nombreux, si fidèles pendant ce mondial. On sait que voilà, vous êtes très nombreux à nous écouter également en podcast, hein. C'est un carton pour l'after, pour RMC en général. Merci encore. Alors, on finit sur le Maroc avant de parler du Brésil. Flo Gautreau, tiens, nous a rejoint. Salut Flo.
Eh oui, on va passer à 6000 rapidement, les gars. Parce que j'arrive. Salut à tous.
Eh ben, Flo, sa commu.
Ah oui, Flo the Goat.
La commu Flo the Goat.
The Flo the Goat.
Il a fait une story sur TikTok, là. Apparemment, il envoie du monde.
TFTG, c'est comme ça. Hashtag TFTG. Ouais. Hashtag, c'est fini, pareil. C'est ringard maintenant. Les hashtags, c'est terminé.
C'est ringue.
Toi qui as décidé.
Comme ta casquette.
Alors ma casquette mon pote, parce que je vois sur le chat on dit Nico a 40 piges un peu plus.
Il ouais, faut savoir que la casquette
on met plus casquette à l'envers, mais ouais. Je m'aimais parce qu'en fait j'ai une coupe de cheveux épouvantable.
Faut savoir que Nico
et que je vais pas chez le barbeur parce que ça coûte $70.
Il cherche un barbeur depuis une semaine et c'est trop cher.
Et il y en a partout.
Ouais, et le problème c'est qu'en fait sa casquette, il la met au paddle, il la met en boîte de nuit, il la met au restaurant.
Pas en boîte de nuit encore, mon ami.
C'est vrai que c'est une fake news. Mais en tout cas, à la base elle était kaki sa casquette, elle est grise.
Ouais, marron.
Ouais, elle est marron grise, ouais.
Marron gris, puis surtout c'est l'odeur.
Ah ouais, c'est
dans la voiture, c'est pas possible.
C'est très repoussant.
Ouais. Mais
c'est fou, toi. C'est fini, après je te dirai un truc.
Ouais,
quand même.
Vas-y, avant que tu m'en mettes une. C'est le look Aurélien Tiercin.
C'est un Clodo.
Ouais.
Ok, pourquoi pas.
Non, mais lui, ça lui va bien.
Bon, là, on est en train de perdre Younes, hein, qui se dit, mon Dieu, il est 1h du matin, 40 du matin, les mecs, ils racontent leur vie.
Non, je vous écoute, hein. Non, mais c'est bien.
Sa chambre, Younes, sa chambre.
Casquette à l'endroit ou à l'envers, Younes, toi?
Pas de casquette. Bah, plus à l'envers qu'à l'endroit.
Ah, voilà, on est d'accord. Ouais. Voilà. Il sait.
Ouais,
il est vrai.
Ouais, il a l'ADA.
Il a l'ADA, Younes.
Tu sais que je suis golfeur. Quand tu joues au golf, sur les golfs un petit peu smart.
C'est ce que fait Casar dans cette nuit de Casar enchaîné quand on parle de golf.
Mais on s'en fout.
Ouais. On n'a pas le.
On n'est pas dans les Casar enchaînés. Et en fait, il y a marqué des petits logotypes où on te dit casquette bien à l'endroit.
Okay.
Pas, tu casquette à l'endroit, mais pas à l'envers.
Ah, ok.
Faut le savoir, quoi. Faut pas te faire
jouer. Pour l'anecdote, Flo.
Il a fallu que Flo vienne d'un nuit de l'after pour qu'on arrête de parler foot, en fait.
Exactement.
Mon mec a rien à cirer, en fait.
Il y a des choses à dire.
C'est le golf. Je vous ai écouté sur le Maroc, là.
Tu veux dire un mot avant qu'on parle de Maroc-Pays-Bas?
Non, bah écoute, ce que je veux dire, c'est que le Maroc, il y a quand même des choses à retenir négativement de ce match. Parce que finalement, je ne vous ai pas écouté en fait. Hein. Mais des choses à retenir négativement, parce que finalement, contre Haïti, il y a beaucoup de points faibles, j'ai trouvé. Alors évidemment, c'est une équipe qui était remaniée, donc c'est un peu particulier. Le point, enfin le, on en parlait avant le match. Point très très satisfaisant, c'est quand même Saïbari, parce que moi je trouve quand même que te trouver un attaquant.
Il a trois buts d'ailleurs. Hein.
Il a trois buts.
Record joueur africain à Coupe du Monde, c'est 4 buts, c'est Roger Mia.
Ouais. Tu as donné la stat du record du truc qu'un joueur africain n'avait jamais fait.
Ouais, vas-y.
Non, mais il a jamais un joueur africain n'avait marqué 3 buts dans les 3 matchs de phase de poule.
Exactement.
Et je trouve que ça, c'est un point très fort. Bounou, moi, j'aime beaucoup le gardien. Donc, je l'ai dit souvent, un bon gardien, une bonne défense et un 9. Tu vois, on est dans
le premier but, Bounou, il est pas.
Non, ouais, il est pas génial, mais je veux dire que globalement, c'est un bon gardien.
Très bon gardien.
Très bon gardien. Et il a fait une parade.
Oui. D'ailleurs, sur une frappe
énorme en deuxième période. Donc, voilà, non, en fait, pour le Maroc, je pense, je suis pas très inquiet par rapport à leur équipe type. Je pense qu'avec l'équipe type, ils seront mieux.
Contre les Pays-Bas, t'imagines quoi? C'est très ouvert.
Alors moi, c'est marrant parce qu'au début, je voyais pas les Pays-Bas aller loin, puis j'ai un petit peu révisé mon jugement. Oui. Mais j'ai quand même, j'ai envie de te dire que le Maroc peut faire du mal, mal aux Pays-Bas.
Ah, bien sûr.
Qui
sera favori entre les Pays-Bas et le Maroc?
Si j'ai dit en tout cas qu'au début, le Maroc pouvait battre le Brésil, et je le pensais sincèrement, surtout le Brésil.
Oui.
Du début
en rodage, là,
en arrivant, ouais. Avec ses mauvais latéraux, je pense que le Maroc peut vraiment faire du mal aux Pays-Bas.
Oui,
mal aux Pays-Bas.
Younes, t'en penses quoi? T'es d'accord?
Ah oui, bah
après, faire du mal. Oui, bien sûr.
Il faut se dire que ce soir, la colonne vertébrale, tout le milieu, tout central n'était pas là. Il faut bien se dire ça. Que c'était une équipe remaniée avec un Mazraoui d'expérience qui n'était pas là. El Khabi qui était un peu timide aussi, Brahim Diaz qui était pas dans son meilleur jour,
le génie Boadi.
Quand même tu en mets 4 et après Haïti aussi a joué très bien le coup en première mi-temps où ils ont joué décontractés, où ils sont donnés, ils ont joué vers l'avant, ils ont été efficaces. Tu joues avec 4 joueurs en moins des 11 titulaires.
Ça va être un match très intéressant, Younes, parce que au milieu de terrain, les Pays-Bas sont très forts aussi avec Gravenberg, avec Frankie de Jong.
Et la défense hollandaise qu'il faut attaquer.
Oui,
il y a
vraiment des trucs à exploiter, mais la bataille au milieu de terrain entre El Aïnaoui, Bouadi, Ounaï et de l'autre côté, ceux que je viens de citer, ça va être très intéressant. Moi, je pense que le Maroc peut regarder dans les yeux les Pays-Bas. Les Pays-Bas, facile.
Tu mets un favori quand même?
40 Maroc.
Je sais pas. Pour moi, c'est 50-50.
Moi, 60-40 Maroc.
Mais pareil, moi aussi, 50-50. Là, pour moi, ça va être le milieu de terrain qui va être très déterminant.
Et ça va être l'efficacité. Pour moi, les trois de devant, s'ils sont dans un bon jour, les Pays-Bas, ils peuvent te faire mal. Que ce soit Rarpo, Gakpo, Brobey, ou même Somerville qui est en forme sur le début de la compétition. Et de l'autre côté, ça va être. Est-ce que Saïbari, est-ce qu'il est pas en surchauffe en termes d'efficacité? Parce que c'est un buteur, Saïbari, mais pas autant. Et derrière, est-ce que les mecs vont prendre
il a été critiqué beaucoup à la CAN où il a manqué d'efficacité sur ses débuts de compétition. Il est en feu, il en a encore sous la chaussure.
Il faut de la confiance pour un attaquant. Et moi, je crois que tu sais, aux histoires ponctuelles, je ne vais pas revenir à Skilacci en 90, mais il y a toujours eu des buteurs comme ça qui se réveillaient et qui sont. Là, le mec, il est en apesanteur. Il rentre le soir à l'hôtel, il se dit c'est moi, je suis dans la zone. Donc il va continuer, à mon avis, il n'y a aucune raison de continuer.
Mais je dis juste que face à cette équipe des Pays-Bas, l'efficacité sera très importante parce que moi, je répète, le Maroc a beaucoup d'occasions, mais par rapport à ce qu'ils ont, il n'y a pas assez d'efficacité. Et dans ces moments de tension, ça va être aussi la différence entre une équipe qui va avancer ou qui va rentrer au pays.
Si
tu veux aller plus loin, t'es obligé au prochain tour d'être 100% efficace.
Ouais.
Les seules occasions peut-être les peu d'occasions, tu sais pas contre qui tu vas tomber, l'Hollande ou le Japon. Les occasions que tu auras, il faudra les mettre au fond. Et Saïbari, sur ce début de tournoi, il a en pleine confiance. Donc c'est à lui de montrer la voie.
Après le Maroc, ce qui est bien avec le Maroc, c'est que le Maroc, ils aiment bien les grosses nations. Ils aiment bien les gros coups. Tu vois, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, mais on voit Haïti, Brésil. Quand ils sont un peu trop favos, ils aiment pas ça le Maroc, j'ai l'impression. Et le Japon, ça aurait pu être une équipe emmerdante par rapport au statut aussi, en se disant le Maroc doit passer contre le Japon. Là, peut-être que contre les Pays-Bas, par rapport à ce
l'avantage, c'est que le Japon protagoniste aussi.
Oui, bien sûr.
Ça aurait été bien quand même.
Le Japon naïf, peut-être aussi dans son style de jeu, ça aurait profité au Maroc, mais jusque là Pays-Bas Maroc par rapport à l'histoire qu'on évoquait tout à l'heure avec Nico, c'est gros rendez-vous tout de suite et peut-être qu'ils aiment ça eux aussi montrer que ce derby entre guillemets peut être remporté.
Là on parle de probabilité, Pays-Bas Maroc c'est très probable, il peut y avoir aussi en huitième de finale ça qui est intéressant, un Canada ou une Corée du Sud contre le Maroc ou les Pays-Bas en huitième de finale. Donc il y a une voie intéressante en fait, après. C'est les parties de tableau de l'Allemagne et de la France.
Les Pays-Bas, ouais. Les Pays-Bas sont, pas, sont évidemment pas
une nation
facile, mais c'est vrai que derrière c'est intéressant pour le chemin. Mais je suis d'accord avec Walid sur le fait que dans le match tactiquement ça va leur convenir, ouais. Et que la défense néerlandaise pour moi est un peu lourde.
Ce sera mardi, ce 16e de finale, 2h du matin.
À Monterrey.
Mardi 30 juin.
Au Mexique.
Voilà.
Mérico. À Monterrey.
Mérico. Tu pourrais passer pour un Mexicain, toi, au Mexique.
Non, Chicanos, moi, j'ai un peu Chicanos.
Ah, si.
Non,
comme moi aussi.
Pas vraiment.
Ah bon, bah, peut-être un Texan.
Ouais, ou un colon. On va écouter tout de suite qui ? Jimmy, tu peux me parler. Jimmy Brown, et première apparition dans l'After ou pas ?
Qu'est-ce qu'il fait là en fait ? Je comprends pas.
Jimmy,
l'heure officielle de Carlo Ancelotti. Voilà. Je viens juste traduire.
Alors, je lance dans un instant, on me dit, le sélectionneur du Brésil. C'est pour lancer la partie brésilienne. Et avant de lancer la suite de la soirée foot, hein, puisqu'on a deux hommes brillants qui vont commenter, il y a le petit ref Valentin Jamin qui va commenter Tchéquie-Mexique. Et Jean-Louis Tour, le chef du foot, est de retour dans la nuit de l'After.
Oh, c'est fort.
Pour Afrique du Sud, Corée du Sud.
Il était là hier.
Est-ce que Carlito est dispo ou pas? Carlito Ancelotti.
Ah non, il appelle le petit ref Carlito. En fait, on a la MJC, ouais, quoi.
Le surnom. Ouais,
ouais, j'ai compris. En
fait. 2h49 du matin, oui, c'est la MJC.
Ok, très bien.
Ou la YMCA, comme on dit.
C'est la MJC de Wee Hawken.
D'où la casquette à l'envers, finalement.
Ouais, ouais,
exactement.
Ouais.
Qui plaît beaucoup à Jimmy.
T'as eu ton Bafa, toi?
J'ai mon Bafa, tout à fait.
Moi, j'ai ma première.
Il y a une tête à son Bafa.
4 années d'animation.
T'as ton Bafa aussi.
Waouh. J'ai ma première partie,
mais t'as pas fait le stage de confirmation.
J'ai ma première partie.
T'as fait ça, toi aussi?
Ouais, j'ai le stage de 4-5 jours, là, etc. Et puis après, j'ai dit, bon, allez, on va passer à autre chose.
D'accord.
Vous en foutez, mais mon fils aussi a son BAFA.
D'accord.
Bon, non, on s'en fout pas.
Ma soeur a son BAFA aussi.
D'accord.
Okay. Éducatrice,
moi. Younes, dans la famille, a un BAFA ou pas? Non, tu peux le dire.
Ouais, si ça vous intéresse, moi j'ai le brevet, donc ça, c'est déjà pas mal.
C'est fort, déjà.
Moi j'ai le brevet de 25 mètres aussi à la natation, si ça vous intéresse.
J'aurais pris le titre avec Montpellier, je t'aurais laissé le BAFA.
Bon, attention, Carlo nous attend là, il est en direct. Il nous attend. Ouais. Carlo, c'est à toi, vas-y. C'est bon, on est Carlo.
On a bien joué. On a refait un bon match à Haïti. Une partie très complète. On est très satisfait.
Jogue à tanto Neymar e Hendrick, os dois puderam jogar um pouquinho.
Ils ont pu jouer un petit peu, Hendrick et Neymar. Je veux mettre en avant l'attitude de tout le monde. On a agi comme un collectif. C'est une bonne chose. On n'a pas encaissé de but. Il y a beaucoup de choses positives. Comme l'entrée de Neymar, qui va pouvoir nous aider.
Comment définir en poucas palavras o Vinícius Júnior nessa Copa até agora?
Comment vous définissez la Coupe du Monde de Vinícius jusqu'à présent? Il dit très fort. Muito forte.
Voilà.
J'avais un doute sur le muito forte. Merci pour la
traduction. Savoir que on fait briller Kevin, on dit le polyglotte, mais Jimmy c'est plus que ça.
C'est très fort.
Jimmy c'est espagnol.
Ouais.
Anglais.
Ouais.
Français évidemment.
Ouais.
Italien.
Arabe, il parle arabe.
Ok.
Également.
D'accord.
Hébreu.
Il parle araméen aussi.
Araméen et portugais também.
Et il traite des questions en portugais en plus. Et
obrigado.
Il faut qu'on mette en avant.
J'arrive sur le Darija, Younes. J'arrive.
Je vais t'apprendre.
C'est dur mais j'arrive. C'est un peu plus technique.
Ouais, c'est vrai. C'est dur, même pour moi, c'est dur. Donc,
merci, Jimmy. Il a dit donc, joga bonito. Et je voulais commencer là-dessus sur le Brésil. Parce que Younes, je sais pas si t'as vu quelques actions, t'étais focus sur le Maroc surtout.
Ah, j'étais sur le Maroc.
Alors, vraiment. Attends, je me tournais vers Walid alors. On a vu du joga bonito, par séquence, qu'on n'avait pas encore vu. Évidemment, ça nous a fait frissonner un petit peu. Mais la question, c'est est-ce que ça va durer? Mais ça existe déjà.
Voilà. Joga bonito, j'irai pas jusque-là.
Il y a deux, trois mouvements.
Oui, il y a le troisième but notamment qui est très, très beau.
Il y en a un qui a raté, voilà, qui est joga bonito.
Voilà, il y a une ou deux séquences. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est une équipe qui est de plus en plus compétitive. Par rapport à la première demi-heure qu'on avait vue catastrophique contre le Maroc, depuis cette demi-heure-là, même en deuxième mi-temps, c'était bien mieux. Et je trouve que cette équipe-là concède bien moins, même si ça reste deux équipes qui étaient inférieures au Maroc. Mais je trouve que cette équipe-là, elle retrouve de la confiance. Elle fait corps autour de Vinicius. Et moi, plus ça avance, plus je retrouve le Vinicius du Real Madrid, avec une équipe qui est compétitive autour de lui, qui va faire les efforts autour de lui et qui va essayer de le lancer pour qu'il soit l'homme providentiel, un peu comme ce que faisait Carlo Ancelotti dans sa première année de son retour au Real Madrid, avant que Mbappé arrive au club notamment. Le choix Cunha à la place de Igor Jesus, le choix des latéraux avec Danilo qui fait aussi beaucoup de bien par rapport à Ibanez qui était cataclysmique et qui n'était pas un latéral. Ryan qui a fait aussi une belle partition. Et au final, je me demande si la blessure de Rafinha Rafinha n'est pas une si mauvaise chose pour pas avoir qu'un joueur star dans cette dans cette équipe. Alors pour moi, mon avis n'a pas changé. Le Brésil va pas gagner la Coupe du Monde. Le Brésil, même un dernier carré, je demande à voir. Mais c'est une équipe en tout cas qui donne le signal d'être beaucoup plus en confiance et d'être en progression par rapport à ce qu'on a vu sur la première demi-heure. Et malgré tout ce qu'on a dit, bah ils sont premiers de poule devant le Maroc et ils vont rencontrer le Japon ou la Suède en 16e de finale.
Flo.
Bah en fait, j'ai deux sentiments. J'ai un sentiment comme celui de Walid qui est de se dire que d'abord par séquence on a vu des trucs très bons dans la compo ensuite. Bah Ancelotti, j'ai avec la première pause fraîcheur du Brésil-Maroc a été capitale, plus la mi-temps ensuite après parce qu'il avait aussi changé à la mi-temps. Donc pour les compos, oui, pour les latéraux dès le départ, on avait été très surpris d'ailleurs de sa compo et effectivement Danilo notamment est très bon. Donc sur la compo, je suis d'accord, il a trouvé des solutions et comme on le disait à l'instant, même pour Cunha, tu vois, c'est Matheus Cunha, c'est toujours bon d'avoir ce buteur qui marque, qui est en confiance, l'action elle est très collective, c'est Guimarães qui lui donne le ballon, très bien. Après, je remarque que ce match se débloque très vite sur une énorme boulette qui donne le match un peu. Déjà que c'est compliqué de jouer contre le Brésil quand t'es l'Écosse, tu donnes le match un peu au Brésil. Derrière, ça devient un peu, ça déroule et donc tu sais pas exactement. Tu n'as pas été beaucoup challengé dans cette poule, c'est un peu le regret souvent. Tu as été challengé par le Maroc en l'occurrence. Dans le premier match et c'est tout. Donc c'est ce qui fait que tu sais pas quel est le niveau réel de ce Brésil. Oui, c'est mieux, c'est pas l'entrée de Neymar qui va nous apprendre quoi que ce soit, ni sur le niveau de Neymar ni sur son utilité dans ce 11. Donc moi je pense que Ancelotti s'est rassuré et surtout il a pas de pression populaire, le public, les joueurs avec lui, le groupe avec lui. On voit d'ailleurs que il fait tout comme il faut. Dans je chante l'hymne, je parle de Joga Bonito, je dis un mot de Neymar, j'ai un truc. Toi, il lui coche toutes les cases. Lui, il fait aucune erreur dans ce qui est du management plus la com. Ça, il y a pas de problème.
Ouais, c'est vrai.
Maintenant, moi, je suis.
Ça, je t'arrête et tu peux reprendre après sur Carlo Ancelotti qui chante l'hymne brésilien.
Ouais.
Je pense que les Brésiliens sont heureux, flattés.
Bien sûr, mais c'est
et qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est ça semble normal.
Moi, je vais te dire,
pour faire une analyse sur le chant de Carlo.
Non, c'est malin.
Tourelle, je ne parle pas l'anglais. Il s'est expliqué en conférence de presse. Il a dit, j'adore cette sélection, j'adore ce pays,
mais
ce n'est pas
cinéma,
mon pays. Je veux pas faire du cinéma. Ouais. C'est précisément ce qu'il a dit.
Moi, je te dis pas
là,
que
Carlo, là, il y a un côté un peu démagogique. Tu vois ce que je veux dire?
C'est ce que je te dis. Non, mais moi, je pense juste que il fait un peu de com, mais peu importe, parce que ça marche et qu'au Brésil. Tout compte, toute cette pression populaire. T'as vu l'histoire de Neymar, je le prends pas. Moi je pense qu'il l'a pris parce qu'il était quasi obligé de le prendre et que derrière il va essayer de se débrouiller comme il peut pour gérer le cas Neymar dans la sélection et en espérant que ça lui apporte un truc. Maintenant je te dis, la décertitude à certains postes qu'il avait pas au début, mais en revanche moi je les ai pas vus.
Pour moi ils ont trouvé leur attaque. Pour moi ils ont trouvé leur attaque avec Cunha, Ryan et Vinicius au milieu de terrain. J'ai toujours des gros doutes sur Paqueta, Casemiro et Bruno Guimarães.
Surtout Paqueta, Casemiro.
Mais Bruno Guimarães a fait son match, mais je te dis juste que cette association là à 3, j'ai encore beaucoup de doutes quand le niveau va s'élever. C'est ça qu'en fait ces deux matchs là ne m'ont pas.
C'est ce que je te dis, honnêtement, qu'est-ce qui t'apprenne sur le Brésil, la compétitivité du Brésil?
On peut quand même valoriser ces deux matchs-là, et surtout celui-là, où je trouve que dans le pressing, dans le fait d'accompagner Vinicius, d'avoir un Vinicius aussi en très grande forme, il y a quand même deux, trois choses.
Tu peux quand même tirer quelques enseignements.
Voilà, positif par rapport à la première demi-heure qu'on avait vue contre le Maroc, où moi j'avais trouvé ça, mais cataclysmique.
Il peut s'appuyer.
Maintenant, est-ce que ça va changer quelque chose sur la suite du tournoi? Je peux pas aujourd'hui mettre ma main à couper.
Non, mais il peut s'appuyer sur des trucs, et t'as raison. Et Vini s'en fait partie. Pareil, sur les Cunha, Vini, sur les buteurs en confiance, c'est capital. Et puis après, en revanche, c'est vrai que par exemple, Marquinhos, tu vois. Il traverse le mondial sans être, enfin, tu vois, je dis pas qu'il est un mauvais mondial.
C'est ce que je vais faire, du coup. Je vais libérer Younes.
OK.
Younes qui.
En fait, je suis en train de regarder un petit résumé.
Alors vas-y.
En fait, sur ce que dit Walid, c'est vrai parce que ça va libérer Vinicius, le fait que Rafinha ne soit pas là. J'ai vu avec Cunha et Ryan qui défendent très bien, qui pressent très bien. Et sur ce que je vois là, il y a un bon pressing aussi des milieux de terrain. Alors c'est vrai que ça reste l'Écosse qui est relativement faible. Sur la relance, c'est pas les spécialistes de la relance. Mais c'est assez cohérent sur ce qu'ils ont fait, comment ils ont pressé. C'est assez cohérent. Et Vinicius, tu vois qu'il est en confiance. Sur le deuxième but, il fait une petite faute. Mais mais sur le deuxième but qui est refusé, là je suis en train de le revoir, il fait une petite faute, mais c'est cohérent quand tu vois le placement des milieux de terrain, des défenseurs. C'est franchement c'est cohérent.
Mais ce qui est important compact, surtout dans les deux premiers buts, parce qu'il y a des erreurs écossaises bien évidemment, mais je trouve qu'il y a quand même une volonté d'aller chercher très très haut, et il y a des récupérations hautes, ce qu'on n'avait pas vu sur le premier match contre le Maroc. Ouais. Après bien évidemment il y a des bémols, on est obligé de faire des bémols sur ce type de compétition où par rapport à ce qu'on demande au Brésil, c'est-à-dire un dernier carré ou une finale ou même gagner la Coupe du Monde, on peut pas aujourd'hui avec ces matchs-là changer de statut du côté du Brésil. Mais on peut dire quand même, parce qu'on regarde les matchs, et notre boulot aussi c'est de regarder les matchs et de faire un peu le baromètre, c'est que les latéraux ont quand même changé, que le numéro 9 Igor Jesus qui était Kata a changé, voilà, et donc ça c'est quand même des oui. trucs positifs.
On va continuer sur le Brésil, bien sûr, on va parler de l'entrée en jeu de Neymar, 23-24 minutes sur le terrain aussi, événement, frisson, ovation, vous allez me dire ce que vous en avez pensé quand même, même si on a assez peu de matière pour en faire 10 minutes non plus. Younes, merci d'être venu.
Merci à vous les gars.
Merci Younes. Cool, à très vite. Younes. On te retrouve pour le 16e de finale. Dans l'after. Ah, il a été coupé Younes. Il y a des gens qui raccrochent avant le revoir, ça arrive parfois. Et là Younes, c'est bon ? C'est bon, il est là Younes. Bon, voilà. Merci Younes. Dans un instant, on va lancer la soirée, l'épilogue du groupe A, République Tchèque, Mexique et Afrique du Sud, Corée du Sud, Valentin Jamin. Et Jean-Louis Tour vont commenter ces deux matchs. Et puis, on va prolonger sur le Brésil. Vous n'hésitez pas à commenter dans le chat. Je précise, je tiens à le dire quand même. Vous êtes nombreux à dire, on veut appeler, on appelle. Pourquoi ça ne répond pas? Le 32-16 en pleine nuit, malheureusement, n'est pas ouvert à partir de 2h du matin, 1h du matin. Voilà, c'est ainsi. On est malheureux de ne pas pouvoir vous accueillir. Mais toute la journée, jusqu'à 1h du matin, on peut vous accueillir au 32-16. Envoyez vos messages, on les relaie sur le chat, vous le savez. Merci d'être toujours aussi nombreux, près de 4000 sur YouTube, et encore plus nombreux sur Afterfoot TV, et encore beaucoup plus nombreux en direct sur RMC, et encore aussi nombreux en podcast ce jeudi. A tout de suite avec Walid, avec Flo, Valentin et Jean-Louis, à tout de suite.